Bonjour, bonjour à tous. Mardi 12 février. Un petit coup d'œil à la date pour vérifier que je ne commence pas l'émission en disant une bêtise. Et bienvenue les 9h dans les voies de service du mardi. Je suis Louis de Bernis et nous sommes tous là de bon matin. Écoutez, les réveils ont bien sonné ce matin. Et nous sommes trois autour de la table. Je suis avec Com et Yves-Olivier.
Bonjour, bon matin. Bonjour à tous.
Bonjour messieurs. Fraîchement, je suppose, comme moi ce matin.
Oui, plutôt oui.
Plutôt.
C'est la voix de la tempête, ça, Com.
Exactement.
La voix du grizzly qui veut hiberner. Et nous avons plein de sujets quand même. Nous sommes en train de nous réchauffer les doigts pour vous les lire, les présenter, les préparer. Quels sont-ils de votre côté, Com?
Alors on a plusieurs choses, on va parler de Wikipédia et de sa monstrueuse base de données qui s'en va un petit peu là-haut.
Là-haut.
Si vous voyez ce que je veux dire.
Dans le cloud.
Après, ouais, on peut dire ça.
Ou au paradis.
On va parler du hockey et on va parler des insectes. Alors du hockey, je parle de cette contraction musculaire qu'on a de temps en temps. Et pas du sport.
Pas du sport. Très bien. On en parle peu, écoutez. Donc parlons-en de votre côté, Yves-Olivier.
Alors de mon côté, ça sera des sujets de tous les jours. Et on commencera donc par ce qu'il y a dans nos paniers d'épicerie.
Dans nos paniers d'épicerie.
Ouais, exactement, oui. La bouffe.
D'accord. Pour l'aspect diététique, économique ou la surprise?
Je vous dirais plus santé.
Santé, d'accord.
Oui. Mais oui, ça a toujours un rapport avec l'économie, vu que c'est une des choses sur lesquelles les ménages dépensent le plus.
Oui.
Donc, c'est le rapport entre être capable de mieux manger, mais que ça coûte plus cher, versus... que ça nous coûte moins cher, mais malheureusement, manger plus de produits transformés.
Trouver le juste équilibre, alors. Très bien, eh bien, de mon côté, il y a des insolites, comme d'habitude. Nous parlerons, par exemple, du pape appelé à manger vegan, également d'un léopard de mer qui avait ingéré quelque chose d'un peu étrange, mais qui va bien, je vous rassure tout de suite. Et puis, si nous avons le temps et une bagarre dans un bingo, voilà, ça existe aussi, c'est au Canada que ça se passe. Tout ceci est à découvrir dans quelques instants dans les voies de service. Et débutons cette émission avec moi, débutons par une insolite. Donc, je vous propose de parler, écoutez, de santé publique pour commencer et de la cigarette. La cigarette, on le sait, qui a des effets nocifs, ça n'est plus à prouver, mais qui est également un sacré lobby dans le monde entier, sont des compagnies très puissantes. Eh bien, certains pays, certaines régions, on trouve parfois la parade où ils pensent pour réduire la consommation de cigarettes. Partons à Hawaï. Faudra-t-il être centenaire pour pouvoir fumer à Hawaï en 2024? C'est le vœu d'un député de l'archipel américain qui a soumis au Parlement local une proposition de loi visant à augmenter progressivement l'âge minimum pour acheter du tabac. Le but de Richard Cregan, élu démocrate, est bien qu'Hawaï devienne le premier État américain à interdire le fait sur son territoire toute vente de cigarettes. Selon lui, l'invention la plus mortelle de toute l'histoire de l'humanité. En gros, nous avons des gens qui sont sévèrement dépendants, de mon point de vue réduits en esclavage par une industrie incroyablement néfaste qui les a fait prisonniers en concevant une cigarette hautement addictive, en sachant pertinemment qu'elle est extrêmement toxique, a-t-il déclaré. En 2016, Hawaï est déjà devenu le premier État américain à avoir fait passer de 18 à 21 ans l'âge légal pour acheter des cigarettes, comme pour l'alcool. La proposition de loi de Richard Cregan prévoit de faire passer les choses progressivement et c'est assez amusant. Elle prévoit ainsi de faire passer à 30 ans l'interdiction en 2020, et puis 40 ans en 2021, 50 ans en 2022, et ainsi de suite, vous avez compris, jusqu'à ce qu'en 2024, eh bien, il faille avoir 100 ans pour pouvoir acheter des cigarettes. Selon les députés, cette façon de procéder permettrait à Hawaï d'interdire virtuellement toute vente de cigarettes sur son sol, sans tomber sous le coup de recours en justice de lobby du tabac. L'État est obligé de protéger la santé publique, assure M. Cregan, qui reconnaît avoir lui-même fumé pour rester éveillé durant ses gardes alors qu'il était interne en médecine. Nous ne laissons pas les gens accéder librement aux opiacés, par exemple, ou à un autre médicament sur ordonnance, plaide l'élu. La cigarette est plus mortelle, plus dangereuse que n'importe quel médicament sur ordonnance et elle est plus addictive. En tant que législateur, il est de notre devoir d'agir pour sauver des vies. Si nous n'interdisons pas les cigarettes, nous tuons des gens, affirme-t-il. Voilà, faudra-t-il d'ici quelques années se déplacer dans les maisons de retraite pour trouver des cigarettes à Hawaï ? Peut-être, en tout cas, voilà un élu soucieux de la bonne santé de ses concitoyens.
Et on va continuer donc avec... Alors là, on va parler de disparition et d'extinction, mais c'est pas à cause de la cigarette.
Heureusement.
Heureusement. On va parler des insectes. Les insectes qui ne fument pas jusqu'à preuve du contraire.
Non, c'est rare de trouver des buralistes pour insectes.
Donc, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Une sixième extinction de masse décime actuellement les espèces vivantes à un rythme inédit. 100 à 1000 fois plus rapide que ce qu'il était avant l'avènement de notre espèce, il y a 10 000 ans. Il y a plus de 10 000 ans même. Parmi les animaux en danger d'extinction, on retrouve des espèces emblématiques, comme par exemple le guépard, la girafe ou l'orang-outan. On pense plus volontiers aux vertébrés, et plus particulièrement aux mammifères. Mais il est une autre catégorie du vivant, souvent oubliée, qui disparaît aujourd'hui en silence, les insectes. C'est ce que montre une vaste méta-analyse de 73 études publiées dans la revue Biological Conservation. Ces résultats sont édifiants. Plus de 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. La masse d'insectes décroît même, depuis plusieurs décennies, de 2,5% par an. De quoi imaginer une disparition totale de ces vertébrés en moins d'un siècle. En cause, l'agriculture intensive. Et la conclusion est claire, à moins que nous ne changions nos façons de produire nos aliments, les insectes auront pris le chemin de l'extinction en quelques décennies, écrivent les auteurs. Le constat est accablant, effectivement. 41% des espèces d'insectes voient leur population décliner de plus de 30%, dont 31% sont aujourd'hui menacées d'extinction. Ces chiffres sont considérablement plus élevés que la moyenne des vertébrés, où 22% des espèces voient leur population décliner. Un chiffre qui s'élève à 26% pour les oiseaux et à 15% pour les mammifères terrestres. Ce qui équivaut, selon eux, au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. Les 73 études scientifiques passées en revue concernent tout particulièrement les espèces d'insectes européennes et nord-américaines, où davantage de suivis réguliers ont été réalisés. Mais tous les insectes ne sont pas toutefois logés à la même enseigne. Parmi les espèces terrestres, les mites et les papillons, les abeilles, les guêpes, les fourmis et enfin les coléoptères sont les plus touchés. Les libellules aussi, les trichoptères et enfin les plécoptères, adaptés aux écosystèmes humides, sont également en déclin. Il ne s'agit pas seulement d'espèces spécialisées occupant des niches écologiques, écrivent les auteurs. De nombreuses espèces peu spécialisées, très communes, sont également touchées. Des espèces opportunistes en profitent certes pour s'établir. Par exemple, aux États-Unis, le bourdon fébrile, supportant mieux les pesticides que l'abeille classique, voit sa population augmenter. Toutefois, cet accroissement n'est pas suffisamment rapide pour compenser les disparitions, déplore les colonnes du Guardian, dans les colonnes du Guardian, Francisco Sanchez Bayo, co-auteur de l'étude. À l'origine de ce déclin, les chercheurs australiens pointent du doigt le recours aux pesticides de synthèse et de façon plus générale l'intensification de l'agriculture dans le monde. Ces pratiques chassent en effet les insectes de leurs écosystèmes habituels, ces derniers étant remplacés par des espèces plus tolérantes aux composés chimiques, en particulier dans les zones marécageuses. Mais pas exclusivement. Certains pesticides, comme les néonicotinoïdes, sont depuis quelques années sur la sellette, en particulier pour leur toxicité pour les insectes pollinisateurs, dont les abeilles. L'agriculture n'est pas seule en cause. Parmi les causes du déclin des insectes, on retrouve également l'irruption d'espèces invasives et enfin le changement climatique. Mais surtout, dans les régions tropicales, il est urgent de réduire notre usage de pesticides pour ralentir la cadence actuelle et améliorer le traitement des eaux usées, alerte les chercheurs. Donc effectivement, changer ses modes d'agriculture pour sauver un petit peu plus d'espèces.
Et alors, est-ce que pour sauver la planète, il faudrait accepter de se faire piquer, ne plus écraser les moustiques et les guêpes en été? Est-ce que ce serait considéré comme un acte pour la planète?
Effectivement, voilà, on peut voir ça comme
se
ça.
Se laisser stoïquement piquer, très bien, ben on fera ça à partir de cet été. Mais
commencer
à les manger, oui, il y a ça aussi. Mais alors, ceux qui sont morts de mort naturelle, peut-être.
Est-ce que les moustiques font partie des espèces à sauver, vraiment?
Bon, il y a tout un débat à avoir. Il y a des études qui arrivent.
Il y a une étude qui arrive là-dessus, c'est sûr.
Très bien.
Il y a des jours comme ça où tous les liens remontent à la surface. C'est sans doute ça qui me rattache ou qui me retient. Une chaîne qui me lie dans l'espace et le temps. Un relais. Un passage étrange de témoin. Et même si je ne suis que témoin et si peu, même si d'autres possibles me semblent durs, j'attends toujours qu'une silhouette sorte lentement de la brume, une main tendue, douce et familière. Il y a des nuits comme ça où je me réveille trop tôt. Je n'arrive plus à dormir, alors je vais à tâtons jusqu'au salon. Et je regarde par-dessus mon épaule derrière, pour voir quand même. Je sens bien que je suis à la charnière, à la frontière de plusieurs vies, de plusieurs époques. Je suis un peu comme dans une pièce avec 1000 portes, 1000 portes qui seraient entr'ouvertes ou fermées. Je suis le fils, je suis le père. Je suis l'ami, l'amant et le frère. Entre l'eau et entre l'air, je suis le feu de fer et de terre. Je vais sur le pont et j'écoute la nuit. Je suis le maillon d'une chaîne infinie. Je vais sur le pont et j'écoute la nuit. Je suis le maillon d'une chaîne infinie. Je suis le fils, je suis le père, je suis l'ami, l'amant et le frère. Entre l'eau et entre l'air, je suis le feu de fer et de terre. Je suis le fils, je suis le père. Je suis l'ami, l'amant et le frère. Entre l'eau et entre l'air, je suis le feu de fer et de terre. Je suis le fils, je suis le père. Je suis l'ami, l'amant et le frère. Entre l'eau et entre l'air, je suis le feu de fer et de terre. Je suis le fils, je suis le père.
On entendait Nicolas Haas et la pièce « Je suis ».
Merci beaucoup Maurice. Poursuivons notre tour de table à présent. Et de votre côté Yves-Olivier, plongeons dans un panier, c'est ça?
Oui, dans un panier d'épicerie. Alors vous nous avez fait comprendre qu'il n'est pas bien de fumer, pour ceux qui ne le savaient pas encore.
Rappelons-le.
Quant à vous, comme vous avez expliqué la corrélation entre l'agriculture et les fourmis. Mm-hmm. Bon, bah, alors suite logique, moi je vous parle d'alimentation.
Très bien.
C'est la chaîne où on suit en régie. Oui,
tout le monde suit.
Donc, je vais vous parler du fait que le tiers du panier d'épicerie est constitué de produits transformés. Ça sonne comme une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si ça vous parle déjà.
Transformé, c'est pas bien.
C'est pas bien, voilà. Et c'est Stéphanie Marin de la presse canadienne qui nous en parle. Le panier d'épicerie des Québécois a été scruté à la loupe par l'Institut national de santé publique du Québec, qui a trouvé qu'encore le tiers de son contenu est composé d'aliments ultra transformés, et moins santé donc, comme les boissons sucrées, les mets prêts à manger et les yogourts aromatisés. Leur volume d'achat a toutefois diminué de 11% entre 2012 et 2016, les années qui ont été analysées dans l'étude. Pendant ce temps, le volume total des achats alimentaires est resté pratiquement stable. Au cours des dernières décennies, le recours aux aliments produits en industrie a augmenté au détriment des aliments frais, rappelle l'Institut québécois qui a analysé les achats de nourriture dans les principales chaînes de supermarchés et dans les magasins à grande surface du Québec. Ils sont les principaux lieux d'approvisionnement alimentaire des Québécois, est-il indiqué, avec les dépanneurs qui ne sont toutefois pas inclus dans l'étude. Ne le sont pas non plus les carottes et tomates achetées au marché local, pas plus que les produits de chez Costco. Certains de ces produits industriels, nommés aliments ultra transformés, sont typiquement riches en sucre, sodium ou gras saturés. Ils sont donc associés à une alimentation de moindre qualité nutritionnelle et contribuent au développement de maladies chroniques, est-il souligné dans l'étude. Celle-ci vise à soutenir les travaux visant à freiner la consommation d'aliments ultra transformés ainsi qu'à améliorer leur qualité nutritive. Les constats suivants ont été faits. Les boissons sucrées et les jus de fruits purs sont les deux catégories d'aliments ultra transformés les plus achetés en 2015-2016. Mais les Québécois ont toutefois diminué leur consommation de ces produits à chaque année de 2012-2013 à 2015-2016. La troisième catégorie d'aliments ultra transformés la plus présente dans le panier d'épicerie moyen est constituée du pain. Le problème avec cet aliment favori est fort pratique. Il est souvent composé de farine raffinée et riche en sel. La qualité nutritive des mets prêts à manger, par exemple les pizzas, pâtés, soupes, repas congelés et conserves, aurait également avantage à être améliorée, estime l'Institut, puisque plusieurs Québécois y ont recours. Ils occupent la quatrième place des aliments ultra transformés les plus achetés. Les yogourts aromatisés se classent au cinquième rang et sont 10 fois plus achetés que les yogourts naturels, relève l'Institut. Ils sont également riches en sucre ajouté. Des études menées dans plusieurs pays, incluant le Canada et dans la province de Québec, ont démontré que plus la proportion de l'apport en énergie provenant des aliments ultra transformés est élevée, plus la qualité globale de l'alimentation se détériore. Au Québec, près de la moitié des calories consommées proviennent des aliments ultra transformés, peut-on lire dans le document. Par ailleurs, le Canada figure au deuxième rang des plus grands acheteurs d'aliments ultra transformés, donc kilos par personne, dans le monde, après les États-Unis, est-il rapporté dans le document de l'Institut national de santé publique du Québec, qui cite une autre étude. De 2012-2013 à 2015-2016, le prix moyen par kilo des aliments ultra transformés a augmenté de 8%, alors que pour l'ensemble des 114 catégories d'aliments étudiés, il n'a augmenté que de 5%. Mais dans certains cas, le prix des aliments ultra transformés a baissé, alors que celui des aliments plus frais a augmenté. Par exemple, les prix du lait nature, les yogourts nature, les fruits frais ont augmenté pendant que ceux des laits et yogourts aromatisés et des jus de fruits ont diminué. Mais c'est l'inverse pour d'autres produits. Le prix des boissons sucrées a augmenté pendant que celui de l'eau plate embouteillée a diminué. En 2015-2016, les boissons sucrées coûtaient plus cher que l'eau plate embouteillée, mais moins cher que le lait nature. Plusieurs différences régionales ont aussi été relevées. La catégorie d'aliments la plus achetée varie selon le coin du Québec. Ainsi, au Bas-Saint-Laurent, dans la capitale nationale, en Estrie, en Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et en Chaudière-Appalaches, ce sont les légumes frais qui arrivent en tête. Et à Montréal, sur la côte nord, dans le nord du Québec et à Laval, il s'agit plutôt de l'eau plate embouteillée. Un peu de classification, les aliments frais et peu transformés, donc c'est les fruits, légumes et légumineuses frais, séchés ou congelés, lait, yogourt, nature, viande, volaille, produits de la mer, nature, œufs, grains, farine, pâtes alimentaires, thé, café, noix, nature, eau, etc. Les ingrédients culinaires transformés, sel, sucre, mélasse, huile, beurre, etc. Les aliments transformés, fruits, légumes et légumineuses en conserve, noix salées ou sucrées, fromage, viande et poissons fumés, etc. Les aliments ultra transformés, c'est les boissons sucrées, confiseries, biscuits, yogourts aromatisés, lait aromatisé, margarine, mets préparés congelés, pains commerciaux, etc. Et voilà.
Et en résumé, alors félicitations à tous ceux qui nous écoutent en région et nous ici à Montréal, il y a encore un peu de travail. un peu de travail à faire.
Exact.
Et Restons un peu dans un panier d'épicerie si on veut, mais pas celui de n'importe qui, dans celui du pape, si vous le voulez bien. Le pape appelé à manger vegan pendant le carême, c'est le titre de cet article de La Presse. Pour sauver la planète, pas de produits d'origine animale pendant le carême. Une campagne internationale, lancée mercredi par une jeune fille de 12 ans et une ONG américaine, invite le pape à manger vegan pendant 40 jours en échange $1 million. Les habitudes alimentaires actuelles des pays les plus riches sont en train de causer destruction et déforestation à l'échelle mondiale, peut-on lire dans une lettre ouverte au pape François, écrite par la jeune américaine Genesis Butler et transmise par l'équipe de la campagne Million Dollar Vegan. Oui, c'est comme ça, c'est le nom de cette ONG. Une pétition « Demandons au pape François de manger vegan pendant le carême » qui commence le 6 mars accompagne cette campagne, lancée par des militants véganes Matthew Glover et Jane Land, et soutenue par des célébrités comme Paul McCartney, Brigitte Bardot, Joaquin Phoenix ou encore Yann Arthus Bertrand. Si sa sainteté le pape s'engage à relever le défi du carême vegan, la campagne Million Dollar Vegan versera, en guise de gratitude, un don caritatif $1 million aux œuvres de bienfaisance choisies par le pape, précise le communiqué. Un don financé par une organisation américaine, la fondation Blue Horizon International. Et donc voilà, ce ne sera pas pour le pape le million de dollars, c'est pour des œuvres caritatives. D'autres campagnes, comme les Meatless Mondays, les lundis sans viande, se développent depuis une vingtaine d'années dans des dizaines de pays dans le monde. Mais elles se sont multipliées plus récemment avec l'alerte climatique. En France, par exemple, début janvier, 500 personnalités soutenues par des ONG, comme Greenpeace ou Sea Shepherd, avaient appelé à des lundis verts sans viande ni poisson. Les campagnes anti-viande ont également été portées par des vidéos tournées dans des abattoirs, notamment par l'association désormais assez connue L214. Chaque personne qui mangera vegan durant le carême économisera l'équivalent carbone d'un vol Londres-Berlin. Si tous les catholiques de la planète faisaient le même, cela équivaudrait à une économie égale à l'ensemble des émissions annuelles d'un pays comme les Philippines, assure le communiqué de Million Dollar Vegan. Le pape n'a pour l'instant pas répondu, mais avouons que ça pourrait être symbolique et intéressant de faire une telle campagne.
Est-ce que le pape mange beaucoup de viande ?
Il nous reste
Mon démon, par Alexandre Désilet.
Merci Maurice. Et pendant que Combe rattrape son sel au vol et nous prépare son petit article avant la pause, nous vous écoutons.
Effectivement, on va parler rapidement de l'addiction, l'addiction percée à jour dans le cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'une personne développe ou non une addiction incontrôlable à une drogue ? C'est la question à laquelle répond une équipe de chercheurs à l'université de Genève.
Est-ce que je peux essayer de répondre déjà ?
Oui.
Ouais, ok. C'est pas, il y a pas un aspect où c'est la génétique. Donc on peut toi et moi consommer la même chose, puis toi tu vas développer une addiction et pas moi à cause de.
Il peut y avoir ça, ouais. Effectivement.
Bon ben voilà.
Bon ben j'ai plus d'article. ils ont en effet identifié de façon très précise chez la souris les voies neuronales spécifiques qui transforment une dépendance contrôlable en addiction délétère. En effet, les spécialistes distinguent la dépendance de l'addiction. La dépendance signifie qu'un sevrage sera nécessaire, mais elle n'entraîne pas forcément l'addiction. Soit le besoin compulsif de consommer, par exemple. Tout le monde devient dépendant à l'héroïne dès les premières injections, mais tout le monde n'en consomme pas de manière incontrôlée. Une différence de taille qui change la donne. On peut en effet être dépendant à une substance et la consommer de façon récréative pendant plusieurs années. Mais l'addiction envahit littéralement la vie de celui qui en est victime, qui consommera de façon incontrôlée en dépit des effets néfastes que la dite substance provoque. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi une personne devient accro aux drogues, alors qu'une autre non. Enfin, Yves le sait, mais... mais grâce à cette étude, nous savons quelles sont les différences au niveau du fonctionnement cérébral de ces deux catégories. Pour identifier ces différences, son équipe a d'abord laissé des groupes de souris alimenter leur dépendance sans contrainte, en activant un levier permettant de stimuler le système de récompense chez les rongeurs. Jusqu'au jour où les chercheurs ont introduit des effets négatifs. Au lieu d'assouvir leur dépendance sans conséquence, les souris recevaient à chaque fois une légère décharge électrique afin de pouvoir observer quelles souris sombreront dans une consommation compulsive. Il faut introduire un effet négatif lors de la stimulation de leur système, stimulation de leur système de récompense, explique Vincent Pascoli. Donc effectivement, l'introduction de cette punition a conduit 40% des souris à se détourner de leur dépendance, tandis que les autres sombraient, elles, dans l'addiction.
Les plus addicts, donc, qui sombraient dans l'addiction.
Effectivement. Donc, de toute manière, quoi qu'il arrive, ne sombrez pas dans les drogues. C'est très mauvais.
C'est très mauvais.
Comme non plus dans les repas sur Transform.
C'est reparti pour la deuxième partie de cette émission. Yves-Olivier, c'est à vous que le micro revient.
Je vous remercie bien. Alors, cher Louis, chers auditeurs, nous allons poursuivre notre aventure dans la bouche des gens.
Et pas cher Combe. Il n'y a pas de cher Combe.
Bon, Combe aussi, désolé, Combe. Ben, en fait, après vous avoir parlé d'alimentation, là, je vais vous parler des restaurateurs et de la difficile survie des restaurateurs. Un texte d'Isabelle Saint-Pierre-Roy à Radio-Canada. Un vendredi soir de janvier, vous enfilez votre manteau. Vous vous enroulez dans votre foulard pour braver le froid avec un seul but, vous réchauffez avec votre plat préféré dans votre restaurant préféré. Sur place, vous frappez un mur, les portes sont barrées, la place est fermée, trois petits points pour de bon. Au Canada, particulièrement au Québec, pas facile de perdurer comme restaurateur, si bien que 7 restaurants sur 10 ferment après 5 ans. L'investissement est risqué, les bénéfices sont minces, même maigres parfois. Discussion avec deux restaurateurs. Le premier, c'est Ségué Lepage, bien installé derrière son comptoir. Sur la rue Castelnau à Montréal, la vitrine du comptoir Sainte-Cécile se fait discrète devant l'église du même nom, tout près du marché Jean Talon. Bienvenue dans le plus récent commerce du chef propriétaire Ségué Lepage et de sa comparse Adèle Prudhomme. Ici, on achète des plats pour emporter et on mange, entre autres, un sandwich au spaghetti bolognais. Une invention du chef, parce que c'est triste de manger un spaghetti sans pain, nous lance-t-il derrière son comptoir en bois. Sainte-Cécile a ouvert en 2016, quelque temps avant la fermeture du restaurant Comptoir Charcuterie et Vin et de la réserve du comptoir, les deux entreprises de Ségué. On s'est rendu à la faillite, on était rendu à un point où on avait comme franchi le point de non-retour, mentionne Ségué. Des dépenses imprévues, des échanges de fonds entre ces deux entreprises ont coulé le chef propriétaire. Aujourd'hui, il sait qu'il a commis des erreurs, dans un milieu où elle ne pardonne presque jamais. En 2017, 60% des faillites en restauration au Canada étaient québécoises, 263 en tout. Martin Vézina est conseiller aux communications et aux affaires publiques pour l'Association des restaurateurs du Québec, l'ARQ, qui représente 5600 membres. Selon lui, ceux qui réussissent à bien s'en sortir ou à tirer leur épingle du jeu sont ceux qui sont à l'écoute des clients. Ça, c'est la base. C'est premièrement avoir un bon concept qui répond à la clientèle locale. Deuxièmement, c'est de savoir compter, explique-t-il. Il est assez commun de voir un restaurateur fermer boutique pour lancer un nouveau concept afin de servir une clientèle volatile et à la recherche du nouvel endroit tendance. Si des restaurateurs comme Séguier ouvrent et ferment des restaurants tout en ayant d'autres projets en tête, c'est que l'innovation, sans vouloir trop faire, est devenue presque incontournable avec les quelques 20 000 établissements au Québec. Il faut être innovateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement trop encadrer, ne pas laisser trop de barrières à l'entrée, parce qu'on va peut-être perdre ce côté de trouver de nouvelles façons de faire, des restaurateurs qui réfléchissent à d'autres moyens. Si on commence à demander de fortes certifications, on risque de perdre ce côté innovateur, pense Martin Vézina. Que l'on vende du tartare ou des patates frites, la marge de manœuvre est petite, très petite. En 2016, les bénéfices avant impôts, tout type de services québécois de restauration confondus, ont été en moyenne de 4,6%. Ils se situent à 4,2% pour tout le pays. Par exemple, un profit net de 2,8%, c'est 28 000 $ pour un restaurant qui vend 1 million. Il faut en vendre beaucoup de nourriture pour 1 million. Une entreprise manufacturière généralement va avoir une rentabilité d'environ 12% à 13%, explique Guy Nadeau, directeur du Centre Desjardins Entreprises de l'Est de Montréal. Si une semaine ton four arrête de fonctionner et il faut que tu en achètes un nouveau, ou même juste de faire réparer, ça coûte des fortunes. Eh bien tu viens de faire disparaître une bonne partie de tes profits de la semaine, affirme le chef Séguier Lepage. Et les investissements initiaux ne sont pas négligeables. Ça peut monter extrêmement rapidement. 200 000 $ à 300 000 $ pour un simple restaurant de base, ce n'est pas rare, dit le directeur du Centre Desjardins. Peu importe quel banquier, ça n'a pas de valeur. La journée que ça va fermer, le banquier qui a financé, ça ne peut pas repartir avec la peinture sur les murs, les beaux tapis, le plafond et l'éclairage. Le matériel, à partir du moment où il sort du magasin, il vient de perdre 25% de sa valeur, poursuit Séguier, qui ne peut faire autrement qu'être son propre patron. En 2010, il a ouvert le restaurant comptoir charcuterie avec presque rien, soit 100 000 $. Les investissements sont importants au départ, mais les prêts ne sont pas très accessibles. Nous, les banquiers, on est un peu moins enclins à faire du financement pour ces raisons. Le taux de faillite, la rentabilité qui est très modeste. Mais il y a toujours possibilité de faire du financement avec des prêts aux petites entreprises, qui est une garantie fédérale, nuance M. Nadeau. Le premier critère, donc pour un prêt, est de savoir si ces personnes ont une expérience dans cette industrie. Le problème, c'est donc de commencer. Mélanger tous ces obstacles ensemble et ça aboutira aussi à un horaire chargé, comme tout bon entrepreneur. Chef, on parle d'un métier assez simple à la base et en devenant propriétaire, il y a beaucoup de métiers qui s'ajoutent et qu'on n'a pas appris. Après ça, c'est de réussir à bien s'entourer, raconte Séguier. Dans les petites entreprises, les propriétaires sont souvent les moins bien payés. Dans les débuts du restaurant, le comptoir charcuterie et vin, tout le monde gagnait plus d'argent que Séguier. Les plongeurs avaient un meilleur taux horaire que lui. Si tu évalues par rapport au nombre d'heures, il y a des moments où je travaillais à 5 $ de l'heure, se souvient le chef. Au final, il faut simplement se lancer. Peu importe, c'est mieux d'aller au bout d'un rêve et peut-être se planter. Et en même temps, il y a tout un apprentissage qui se fait. Lance Séguier, assis sur un tabouret derrière la vitrine de sa Sainte-Cécile.
Un métier, il faut prendre des risques, écoutez, mais qui a l'air de pouvoir être gratifiant quand ça fonctionne bien.
Et puis intéressant quand on aime la cuisine.
Oui, tout de même.
Ouais, bon,
D'ailleurs, j'ai bien aimé que vous ayez apprécié cet article. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre. Elle s'appelle Ginny Rose, 20 ans, qui est aux commandes du crêpe chignon.
Très bien.
Donc si ça vous tente d'y aller d'ici là.
C'est où?
Le crêpe chignon.
Oui.
À Montréal.
À Montréal.
Oui.
On cherchera ça. Essayons parfois de faire des liens entre les articles, autant que faire se peut. Là, ça va être compliqué. Je peux essayer quelque chose, mais ça va être très tiré par les cheveux, tant l'anecdote en elle-même est déjà surprenante. Vous avez parlé de restaurateur, restauration, très bien. Donc ça parle d'alimentation, de digestion, si on poursuit. De digestion. Et, et la digestion aboutit, bon, bah, inévitablement, tous les jours. Voilà, aller à la salle, effectivement.
Ah, d'accord, ok, très bien. Okay.
Et, et les animaux également sont concernés.
Vous n'étiez vraiment pas obligé de faire de lien.
Écoutez, j'essaie de donner...
complètement sortir.
Il faut qu'il y ait une dynamique dans l'émission quand même, alors suivons le fil. Bref, je vous parle d'un léopard de mer. Ça, déjà, c'est pas banal.
Qui a ouvert son restaurant.
Qui n'a pas ouvert son restaurant, mais qui est peut-être allé dans un restaurant un peu particulier, étant donné ce qu'on a retrouvé dans ses déjections. Des scientifiques néo-zélandais examinaient des excréments congelés de léopards de mer quand ils ont retrouvé une clé USB contenant des photos de lions de mer en train de s'ébrouer. Les déjections avaient passé environ un an au congélateur avant d'être décongelées à des fins de recherche. Elles avaient été prélevées en novembre 2017 par un vétérinaire qui voulait vérifier l'état de santé d'un léopard de mer malade sur Oreti Beach, à la pointe méridionale de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Eh bien, il y avait une clé USB cachée profondément dans les excréments, a révélé l'Institut national de l'eau et de la recherche atmosphérique. La clé était dans un relativement bon état au vu de sa provenance. Après l'avoir fait sécher quelques semaines, quand même, les scientifiques l'ont insérée dans un ordinateur pour qu'elle livre ses secrets. Et elle contenait, eh bien, des photos de lions de mer dans une baie, ainsi que la vidéo d'une femelle lion de mer en train de jouer avec son petit dans des eaux peu profondes. Le seul indice sur l'identité de l'auteur de ces images est l'avant d'un kayak bleu. L'association a lancé un appel au public. Si ces images sont à vous et que vous voulez votre clé USB, il vous en coûtera. Les chercheurs qui étudient les léopards de mer voudraient plus d'excréments de léopards de mer, s'il vous plaît. Voilà, la proposition de troc est lancée.
Cher Louis, je n'ai jamais essayé de coller le fake news à vos histoires insolites, mais
vous pouvez
un léopard de mer qui avait une clé USB à l'intérieur, il y avait des photos d'un lion de mer.
On lance tellement de choses bêtes dans l'océan, malheureusement, que voilà, la clé USB s'est retrouvée là, et vous pouvez même aller en ligne si vous voulez, regarder les images.
Pas forcément jeter dans la mer, mais plutôt un chercheur qui aura perdu sa clé proche de la des léopards de mer.
Pauvres animaux.
Qui l'aura mangé.
Pauvres animaux, quand même. Un être réduit.
Ça, c'est sûr.
Ça.
Ouais.
Si on faisait semblant pour ce soir, en déposant les armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps. On peut faire semblant pour ce soir. J'ai laissé passer du temps, mais tous les lieux parlent de toi. J'ai enlevé de tous mes écrans, mais nos souvenirs s'accrochent. Est-ce que ton cœur décroche? Attends, ne ferme pas la porte sur nous. Attends, ne ferme pas la porte. Attends, ne ferme pas la porte. Surtout, non, non. Si on faisait semblant pour ce soir, déposant les armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps. On peut faire semblant pour ce soir. Bien évidemment que je t'aime. Déposant nos armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps. On peut faire semblant pour ce soir. On peut faire semblant. Ne dis rien, on fera comme avant. J'ai tout gâché, mais à coup de pas. Je vais me sentir comme la première fois. S'aimer sans précédent, s'aimer sans règlement. Attends, ne ferme pas la porte sur nous. Attends, ne ferme pas la porte. Attends, ne ferme pas la porte. Surtout, non, non. Si on faisait semblant pour ce soir, déposant les armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps. On peut faire semblant pour ce soir. Bien évidemment que je t'aime. Déposant nos armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps. On peut faire semblant pour ce soir. On peut faire semblant. On peut faire semblant.
surtout, non, non. Si on faisait semblant pour ce soir, déposant les armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps, on peut faire semblant pour ce soir. Bien évidemment que je t'aime encore, déposant nos armes face au miroir, tu peux mettre tes mains sur mon corps, on peut faire semblant pour ce soir. On peut faire semblant. On peut faire semblant.
Laurence Nerbonne, semblant.
Et ne faisons pas semblant de poursuivre l'émission avec un sujet. Allez-y, un sujet homophone, c'est ça,
c'est ça. Quels sont pour vous, quels sont vos remèdes miracles contre le hockey, dites-moi.
Boire de l'eau, beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si ça fonctionne.
Avoir peur.
Avoir peur.
Et il y a oui,
retenir sa respiration.
Retenir sa respiration. Effectivement, ce sont les plus communs. Bloquer sa respiration.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi du vinaigre sur un sucre?
Presque. Du sucre avec du citron.
Bon, bah,
c'était,
pas loin.
Ça fait partie, effectivement, des remèdes que l'on s'échange pour faire passer le hockey. Mais la question de son origine est bien moins fréquemment abordée, on est d'accord. Mmh. Alors d'où viennent ces soudaines contractions du diaphragme qui provoquent ce fameux hockey? Car oui, ce sont des contractions soudaines du diaphragme.
Je me suis jamais posé la question.
Ah bah d'accord. Oh, quand même.
Je viens d'apprendre 4 mots là, dans la phrase.
Donc il pourrait s'agir d'un réflexe primitif légué par de très lointains ancêtres, selon une équipe dirigée par Christian Strauss.
Ça veut dire que les hommes préhistoriques avaient le hockey aussi.
Et peut-être même avant les hommes.
Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait.
Est-ce qu'ils savaient que c'était une contraction?
Ils tapaient dessus là, c'est juste pour ça.
Donc Strauss et ses collègues y expliquent qu'ils ont observé chez certains animaux à branchies un mécanisme proche du hockey. Les amphibiens, par exemple, expulsent l'eau par des branchies en fermant la cavité buccale et en bloquant la glotte pour empêcher le liquide de passer. Comme pour le hockey, un gonflement des poumons ou un taux élevé de dioxyde de carbone empêche le mécanisme. Strauss explique que ce circuit qui contrôle les branchies et la glotte a été conservé au cours de l'évolution. Il aurait formé une base pour le développement de mécanismes plus complexes, comme la capacité de téter chez les mammifères. Cette audacieuse hypothèse ne pourrait être vérifiée qu'en comparant les neurones activés au cours des différentes activités. Les mécanismes du hockey, eux, sont un peu mieux connus. Pendant le hockey, le diaphragme se contracte de façon spasmodique et répétée, tandis que la glotte se ferme brusquement, provoquant les sons bien connus du hockey, appelés hiccup en anglais, hippo en espagnol, hic en allemand, et je ne vais pas vous faire toutes les langues, parce que ça durerait un peu longtemps. Comme nous l'expliquons dans cet article, le hoquet est provoqué à l'origine par l'irritation du nerf phrénique, qui est chargé d'innerver le diaphragme. Dans la grande majorité des cas, il est dû à une acidité de l'œsophage ou à un problème au niveau de l'estomac, un ulcère, des reflux gastriques ou une œsophagite. Le hoquet, qui dure généralement quelques minutes, peut être déclenché par un fou rire, une toux, des chatouillements, un repas trop copieux ou trop épicé, un repas ingurgité trop rapidement ou encore le stress. Le spasme peut se répéter jusqu'à une fois par seconde, mais disparaît très rapidement. Chez le nourrisson, il se produit souvent après la tétée ou le biberon, et avant que le bébé ne fasse son rôle. Le hoquet s'arrêtera en général spontanément, et il est sans danger. Quand il devient chronique, il peut être associé à une maladie plus grave, comme l'œsophagite. Et dans quelques cas rares, le hoquet peut être chronique et durer plus de 48 heures. Le hoquet peut alors être très handicapant dans la vie quotidienne. À long terme, il provoque des insomnies et des troubles alimentaires. En outre, il peut avoir des répercussions importantes sur la vie sociale. Dans ce cas, le hoquet peut être dû à plus d'une cinquantaine de causes différentes, explique le professeur Cabane, dont certaines pour le moins surprenantes. Et ce dernier donc de raconter l'histoire d'un camionneur transportant des boîtes de petits pois. Victime d'un accident grave, l'homme va passer un mois dans le coma sous respirateur artificiel. À son réveil, il souffre d'un hoquet chronique que personne n'arrive à faire disparaître. Jusqu'un jour où l'homme consulte un ORL qui va découvrir un petit pois coincé dans l'oreille. Ce qui a provoqué le hoquet. Il y a aussi le cas grave du pape Pie XII, dont le hoquet chronique était en fait dû à un cancer de l'estomac. En tout cas, les 11 ans de hoquet d'Amanda Corby ne suffiront pas à détrôner l'Américain Charles Osborne dans le Guinness Book des records, qui a vécu 68 ans avec un hoquet continu.
À quelle fréquence ?
je ne sais pas, malheureusement. Ah. Mais j'avais déjà vu effectivement ce cas, et c'est quelque chose d'insupportable, je pense. Peu importe la fréquence. Alors, que faire en cas de hoquet ? Ben, il existe des méthodes pour faire passer le hoquet, quelques méthodes qui ne fonctionnent peut-être pas chez tout le monde. Boire de l'eau froide sans respirer, inspirer une bouffée d'air frais et arrêter de respirer, ou modifier son rythme respiratoire, hein. Par exemple respirer très lentement. Pour prévenir le hoquet, il est conseillé de manger léger, peu épicé et dans le calme. En outre, les boissons gazeuses doivent être évitées. Bien sûr, il est préférable de consulter un médecin quand le hoquet persiste depuis plus de 48 heures ou devient trop fréquent. Dans ce cas, il pourra être prescrit des examens pour déterminer les causes d'une éventuelle maladie. Et il faut également consulter son médecin quand le hoquet s'accompagne de douleurs au niveau du ventre, de vomissements ou de difficultés à respirer.
Eh bien, j'espère qu'il n'y a pas trop d'hypochondriaques qui nous écoutent, parce que l'éventail des causes possibles va quand même du petit pois dans l'oreille au cancer de l'estomac. Ça fait assez large.
Effectivement. Les boissons gazeuses aussi. Hein. L'alimentation a beaucoup à voir là-dessus.
Ne paniquez pas et voilà, respirez différemment.
Alors, on revient avec un article sur la camionnette électrique chinoise à petit prix, un texte d'Alain McKenna de La Presse. Je vous annonce l'arrivée de la chinoise Kaiyun Motors, donc qui a reçu l'approbation du gouvernement américain pour commercialiser une diminutive camionnette électrique appelée Pikman. Vendue à peine 16 800 yuan, 3 300 dollars dans l'Empire du Milieu, elle coûterait plus de 6 500 dollars aux États-Unis après les modifications de conformité d'usage. Ceux qui y voient une solution de rechange à leur F-150 seront déçus d'apprendre que la Pikman ne s'adresse pas à eux. Sa mécanique est limitée, avec une vitesse de pointe de 45 km à l'heure et une autonomie de 120 km par charge, vous n'aurez pas le hoquet. Ce qui en fait davantage un véhicule à basse vitesse qu'un véhicule commercial, mais certains pourraient tout de même y trouver leur compte. Sa charge maximale de 500 kg pourrait intéresser ceux qui cherchent un véhicule utilitaire électrique abordable, qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de travailleurs de la construction par exemple. Pour l'instant, aucune information quant à savoir si la camionnette sera également vendue au Canada n'a été donnée toutefois. Voilà.
Dessine-moi à l'envers comme à l'endroit. Tu me saoules en douce. Devine-moi et déplace les dégâts. Moi, je retiens encore mon souffle. Dérive-moi et en deux et en trois, on refait la boucle. Évite-moi et en long et en large, je t'attends. Dernier verre au nom des amours sur ton balcon. Soulève-moi. Sur le mur, tu me plaques où le
Les Jupes, par Charlotte Cardin.
Et nous sommes le 12 février, dans deux jours, c'est donc le 14. Le 14, c'est la Saint-Valentin, voilà, petit rappel pour ceux qui auraient oublié. Et j'ai une idée pour vous, pour la Saint-Valentin, plus précisément si vous êtes célibataire. Et, et si vous êtes même célibataire depuis récemment, si vous avez de la rancœur. Oubliez les fleurs, le chocolat ou le dîner aux chandelles. Un zoo du Texas propose aux célibataires de baptiser du nom d'une ex, d'un ou une ex, des cafards qui serviront à nourrir des suricates le jour de la Saint-Valentin. C'est très sérieux. Vous craignez de vous sentir un peu seul le 14 février, une de vos ex ou un de vos ex vous donne le cafard, le zoo d'El Paso a la solution. Il invite les âmes esselées et rancunières à donner à un cafard le nom d'un ou une ancienne petite amie dont on n'a pas gardé un souvenir impérissable. L'insecte en question servira ensuite de repas à des suricates lors d'un festin croustillant de Saint-Valentin, retransmis en direct, s'il vous plaît, sur le site internet et la page Facebook du zoo. Il devrait s'agir, selon les responsables du parc animalier, de cafards sifflants de Madagascar. C'est une espèce de très gros cafard, a précisé Sarah Murphy, éducatrice au zoo d'El Paso, à l'antenne locale. Nous en élevons ici afin de nourrir les autres animaux, et ils sifflent réellement. Et ce sera peut-être aussi le cas jeudi prochain, donc, des oreilles de certains ou certaines ex. Et puis, sans transition, mais la nouvelle m'a fait également pas mal rire, il y avait un peu moins d'amour du côté de ce bingo pour aînés en Ontario. Des agents de la police provinciale ontarienne ont dû intervenir après qu'une bagarre entre deux femmes âgées eût semé le chaos dans un centre de soins de longue durée du canton de Rideau Lakes, au nord-est de Kingston. Une querelle aurait d'abord éclaté entre une femme de 79 ans et une autre de 86 ans qui convoitaient le même siège. Les deux belligérantes tenaient si chèrement à la place de choix qu'elles en seraient venues au coup. D'après les policiers, le conflit entre les deux femmes aurait ensuite dégénéré, entraînant dans la bagarre plusieurs autres personnes qui se trouvaient autour d'elles. Personne, heureusement, n'aurait subi de blessures dans l'incident et aucune accusation n'a été déposée.
J'aimerais qu'on revienne sur les cafards.
Sur les cafards, oui, ça vous intéresse.
Est-ce qu'on peut suivre son cafard, se faire manger et,
Peut-être qu'ils vont mettre des couleurs, écoutez, sur les
savoir
cafards.
Savoir lequel... Ah, ça, c'est intéressant.
Eh bien, écoutez, on sera connectés, alors jeudi, sur la page de ce zoo, et on va suivre ça de près.
De très, très près.
Je ne vais pas être trop curieux, je ne vais pas vous demander si vous allez vouloir donner un nom à un cafard.
Je vais en donner plusieurs.
on va respecter la vie privée, mais d'accord, plusieurs ennemis en tête, pourquoi pas. C'est donc ce qui va conclure tranquillement cette émission. Est-ce que Yves-Olivier, vous avez appris beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui grâce à Com?
Toujours.
Toujours.
C'est un honneur. À chaque mardi, je gagne
Vous êtes incroyable parce que vous retenez tout de tête. Je ne vous vois pas avec un petit carnet noter les nouveaux mots.
Non, c'est
instantané.
Quand on est passionné, ça reste dans la tête.
Très bien.
Comme un bon film. Tu t'en rappelles.
Bon, très bien. On attend avec impatience à la fin de l'année la liste de tous les nouveaux mots.
En fait, vous allez vous en rendre compte à la manière que je vais communiquer.
Très bien.
Je vous dirai plus, j'ai mal au ventre. Je vous parlerai des molécules.
D'éructation.
Voilà, des trucs comme ça.
Et puis un beau mardi matin, vous ne serez plus avec nous. Vous serez allé en train de recevoir votre prix Nobel de littérature, tout simplement. Très bien. Merci à vous deux et merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. À la semaine prochaine.
Allez, bye.